Mais je remercie cet auditoire toujours aussi fervent. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous atteignons un sommet, parce qu'évidemment, la femme audacieuse, ça ne peut qu'intéresser beaucoup de personnes. Donc je vous remercie d'être présent. Je suis ravie de voir que depuis le début, donc depuis le mois d'octobre, c'est toujours aussi passionnant pour tout le monde, la culture européenne et ce qu'est l'Europe. Alors, je dois vous dire, vous voyez que nous sommes deux. Je vais présenter Madame Nathalie Loiseau, qui est directrice de l'école normale, directrice de l'ENA, École nationale d'administration. Mais je dois vous dire que nous devions être trois et que j'ai eu beaucoup de difficultés, qui explique la raison que nous ne sommes que deux, parce que quatre personnes à qui j'ai demandé ont eu des raisons tout à fait explicables, entre autres des raisons médicales profondes, pour ne pas pouvoir être là aujourd'hui, ou bien parce qu'elles avaient d'autres responsabilités qui les empêchaient au dernier moment, entre autres par exemple la responsable, celle qui a été maire d'Athènes et qui aujourd'hui est conviée par son parti pour être à Athènes pour traiter de questions, vous pouvez imaginer, très importantes. Ça m'a fait penser, parce que nous en sommes quand même à la quatrième réunion et que les trois premières réunions ont été sans aucun problème, mais j'avais convié des messieurs, ça m'a fait penser que les femmes de grande responsabilité sont extrêmement sollicitées et que c'est la raison pour laquelle nous avons tellement de mal à obtenir qu'elles viennent. C'est pour ça que je remercie particulièrement Madame Nathalie Loiseau d'être là, parce que je sais que, en plus, avec cette journée de la femme, elle a été très sollicitée toute la semaine passée, elle le sera encore la semaine prochaine. Donc, merci infiniment d'être présente pour traiter de ce sujet qui me paraît un sujet alors d'autant plus important pour nous qui sommes les participantes de Citoyennes pour l'Europe. Je vous signale encore une fois qu'il y a des hommes qui sont adhérents, parce qu'il était très important que les hommes s'occupent de cette question de la citoyenneté féminine européenne. Alors, la femme européenne aujourd'hui, j'introduis tout juste et puis nous discuterons et nous écouterons bien sûr les textes. La femme européenne aujourd'hui a une condition qu'on peut dire enviable et très enviée. Alors attention, enviable et très enviée, elle n'a pas été toujours dans cette situation, c'est bien évident. C'est quelque chose d'assez récent, cette situation aussi enviable. Et toutes les européennes ne sont pas dans cette situation non plus, bien évidemment. Alors, question, et c'est comme ça que j'introduisais d'ailleurs le texte, question, comment expliquer cette condition? Et je donnais deux possibilités, soit parce qu'il y a eu des luttes qui ont permis des victoires, ce qui est certain, il y a eu des luttes qui ont permis des victoires. Question, est-ce qu'il est suffisant de penser les choses ainsi, ou bien faut-il aller jusqu'à, et ça c'est pareil une question très importante par rapport à l'Europe, faut-il aller jusqu'à considérer qu'il y a en Europe un espace favorable à cette situation de la femme, un espace propice à l'audace pour les femmes? Pourquoi y aurait-il en Europe un espace propice à l'audace des femmes? D'autant plus que les luttes que les femmes ont menées jusqu'à présent, ces luttes, il n'y a bien évidemment pas que les Européennes qui l'ont menée. Je pense que ce serait injurieux vis-à-vis des femmes qui ne sont pas européennes que de penser que seules les Européennes ont été capables de luttes victorieuses, de luttes constantes. Bien évidemment, il y a eu ça ailleurs. Mais il se trouve que la situation ici est quand même assez favorable. Alors, sans doute, faut-il aller chercher du côté de l'anthropologie européenne. L'anthropologie européenne, c'est quelque chose de longue haleine, on l'a déjà vu d'ailleurs, ici ou là dans nos réflexions. L'anthropologie européenne, moi qui suis philosophe, je la fais remonter à la Grèce ancienne, c'est-à-dire à toute la réflexion philosophique, par exemple, d'Aristote, à l'invention en Grèce, et ça n'est quand même pas peu, de la démocratie, de la citoyenneté, et j'ajouterais derrière cela, cette anthropologie a conduit jusqu'à l'invention de l'école. C'est l'Europe qui a inventé l'école. Ça veut dire que derrière cette invention de l'école, il y a l'idée que l'humain est un être de culture qui est perfectible, que sa nature ne suffit pas à expliquer ce qu'il devient, et que donc c'est lui qui se construit lui-même. Allez voir la sophistique, c'est ce que disent les sophistes. Allez voir Aristote, c'est ce qu'il dit aussi. Donc, ça me paraît très important. Alors, attention, en Grèce, à l'époque, la femme n'avait pas cette condition, c'est très certain. Et j'irai jusqu'à la... Je voudrais bien que cette moto s'arrête, parce que vous ne devez pas m'entendre, du coup, si vous m'entendez. Il faudrait peut-être fermer les fenêtres, voilà. Merci de fermer les fenêtres. Et donc, cette anthropologie, on la retrouve très clairement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est quand même un morceau absolument splendide quant aux droits que tout humain européen, puisque c'est la Charte des droits européens de l'Union européenne, peut avoir. La dimension de la dignité, c'est-à-dire la valeur sacrée de chaque personne. Et derrière ça, il y a le concept de personne, c'est-à-dire ce que la scolastique a apporté à cette anthropologie européenne. Donc la dignité, l'égalité, bien sûr, l'égalité entre hommes et femmes, la liberté, très importante pour penser, la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté de religion. Pour pouvoir être audacieuse, il est évident que de jouir de ces libertés est quelque chose d'essentiel. Et puis, la solidarité, c'est-à-dire tous les droits sociaux, qui permettent précisément aux femmes de pouvoir envisager une vie professionnelle comme elles l'entendent, telle qu'elles la désirent. Et enfin, la citoyenneté, bien sûr, vous connaissez, droit de vote et d'éligibilité. Bien, ça veut donc dire qu'il y a en Europe toute une série de droits qui laissent une place à cette possibilité d'audace. Bien, alors je crois qu'on va d'abord écouter un premier texte, donc on va écouter, Pilar de Lusignan qui est là, qui va nous lire ce texte splendide de Dolores Ibaruri, No Pasaran, et puis nous l'écouterons ensuite en français grâce à Claire Sermon. Merci Pilar.
Obreros, campesinos, antifascistas, españoles patriotas, frente a la sublevación militar fascista, todos en pie, a defender la República, a defender las libertades populares y las conquistas democráticas del pueblo. A través de las notas del gobierno y del Frente Popular, el pueblo conoce la gravedad del momento actual. En Marruecos y en Canarias, luchan los trabajadores unidos a las fuerzas leales a la República contra los militares y fascistas sublevados. Al grito de «El fascismo no pasará, no pasarán los verdugos de octubre», los obreros y campesinos de distintas provincias de España se incorporan a la lucha contra los enemigos de la República alzados en armas. Los comunistas, los socialistas y anarquistas, los republicanos demócratas, los soldados y las fuerzas fieles a la República han infligido las primeras derrotas a los facciosos que arrastran por el fango de la traición el honor militar de que tantas veces han alardeado. Todo el país vibra de indignación ante esos desalmados que quieren hundir a la España democrática y popular en un infierno de terror y de muerte. Pero no pasarán. España entera se dispone al combate. En Madrid, el pueblo está en la calle apoyando al gobierno y estimulándole con su decisión y espíritu de lucha para que llegue hasta el fin en el aplastamiento de los militares y fascistas sublevados. Jóvenes, preparaos para la pelea. Mujeres, heroicas mujeres del pueblo, acordaos del heroísmo de las mujeres asturianas en 1934. Luchad también vosotras al lado de los hombres para defender la vida y la libertad de vuestros hijos que el fascismo amenaza. Soldados, hijos del pueblo, manteneos fieles al gobierno de la República. Luchad al lado de los trabajadores, al lado de las fuerzas del Frente Popular, junto a vuestros padres, vuestros hermanos y compañeros. Luchad por la España del 16 de febrero, luchad por la República, ayudadlos a triunfar. Trabajadores de todas las tendencias, el gobierno pone en nuestras manos las armas para que salvemos a España y al pueblo del horror y de la vergüenza que significaría el triunfo de los sangrientos verdugos de octubre. Que nadie vacile, todos dispuestos para la acción. Cada obrero, cada antifascista debe considerarse un soldado en armas. Pueblos de Cataluña, Baskonia y Galicia, españoles todos, a defender la República Democrática, a consolidar la victoria lograda por el pueblo el 16 de febrero. El Partido Comunista os llama a la lucha, os llama especialmente a vosotros, obreros, campesinos, intelectuales, a ocupar un puesto en el combate para aplastar definitivamente a los enemigos de la República y de las libertades populares. ¡Viva el Frente Popular! ¡Viva la unión de todos los antifascistas! ¡Viva la República del Pueblo! ¡Los fascistas no pasarán! ¡No pasarán!
Ouvriers, paysans, antifascistes, espagnols patriotes, face au soulèvement militaire fasciste, tous debout, défendons la République, défendons les libertés populaires et les conquêtes démocratiques du peuple. Par les communiqués du gouvernement et du Front populaire, le peuple connaît la gravité du moment actuel. Au Maroc, et aux Canaries, les travailleurs sont en lutte aux côtés des forces restées fidèles à la République, contre les militaires et les fascistes insurgés. Au cri de « le fascisme ne passera pas, les bourreaux d'octobre ne passeront pas », les ouvriers et les paysans de diverses provinces d'Espagne s'incorporent à la lutte contre les ennemis de la République. Les communistes, les socialistes et les anarchistes, les républicains démocrates, les soldats et les forces demeurées loyales à la République ont infligé les premières défaites aux factieux qui traînent dans la boue de la trahison l'honneur militaire dont ils se glorifiaient tant. Tout le pays vibre d'indignation devant ces misérables qui veulent plonger l'Espagne démocratique et populaire dans un enfer de terreur et de mort. Mais ils ne passeront pas. L'Espagne entière s'apprête au combat. À Madrid, le peuple est dans la rue, soutenant le gouvernement et le stimulant avec son énergie et son esprit de lutte pour que les militaires et les fascistes insurgés soient totalement écrasés. Jeunes, préparez-vous au combat. Femmes, héroïques femmes du peuple, souvenez-vous de l'héroïsme des femmes des Asturies en 1934. Luttez, vous aussi, aux côtés des hommes pour défendre la vie et la liberté de vos enfants que le fascisme menace. Soldats, fils du peuple, restez fidèles au gouvernement et à la République. Luttez aux côtés des travailleurs, aux côtés des forces du Front populaire, aux côtés de vos parents, de vos frères et de vos camarades. Luttez pour l'Espagne du 16 février, luttez pour la République, aidez-les à vaincre. Travailleurs de toute tendance, le gouvernement met entre vos mains des armes pour sauver l'Espagne et le peuple de l'horreur et de la honte que représenterait la victoire des bourreaux d'octobre couverts de sang. Que nul n'hésite, soyez tous prêts pour l'action. Chaque ouvrier, chaque antifasciste doit se considérer comme un soldat en armes. Peuple de Catalogne, du Pays Basque et de Galice, Espagnols de partout, défendons la République démocratique, consolidons la victoire obtenue par le peuple le 16 février. Le Parti communiste vous appelle au combat. Il appelle tout spécialement les ouvriers, les paysans, les intellectuels à occuper un poste de combat pour écraser définitivement les ennemis de la République et des libertés populaires. Vive le Front populaire! Vive l'union de tous les antifascistes! Vive la République du peuple! Les fascistes ne passeront pas! Ils ne passeront pas! No pasarán!
Texte, je ne sais pas si on peut prendre la parole après, parce que vraiment, ce texte est absolument admirable. Il a été prononcé, vous le trouverez d'ailleurs sur dans vos dossiers, en 1936 au balcon du ministère de l'Intérieur à Madrid. Donc ça veut dire que cette femme a eu une audace, un courage, elle a pris des risques fantastiques, et c'est devenu le symbole vraiment de l'antifascisme et du républicanisme. Donc c'est quelque chose d'absolument magnifique. Alors, je vous passe la parole. J'ai déjà trop parlé. Comment réagissez-vous par rapport à un texte comme celui-ci?
D'abord, on est porté par la beauté de ce texte, par la manière dont il a été lu deux fois aussi. Je dois dire que c'était un vrai bonheur. Je trouve que c'est un symbole fort. C'est un symbole de la capacité des femmes en Europe à participer pleinement aux luttes pour la liberté. Mais c'est aussi un texte symbolique d'un échec. Le fascisme est passé. Et c'est souvent que la cause des femmes a été associée au grand combat pour la liberté en Europe. Ça n'a pas voulu dire pour autant un progrès linéaire, ni pour la liberté, ni encore moins pour la cause des femmes. Et c'est très frappant de voir des personnalités, des personnages européens féminins associés à la plupart des idéaux révolutionnaires, à la plupart des combats pour la liberté, mais aussi de voir le nombre de destins tragiques qu'elles ont subis.
Je pense de Gouges.
Alors, en commençant, à tout seigneur, tout honneur, et nous sommes ici à Paris, dans ce quartier, en commençant bien sûr par Olympe de Gouges, son combat était d'abord le combat pour la citoyenneté, les citoyennes d'Europe. On est au cœur avec Olympe de Gouges, et finalement, le seul droit qui lui a été reconnu, ça a été celui de monter sur l'échafaud comme un homme.
Ce qu'elle a dit d'ailleurs, elle a dit la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle devrait avoir le droit de monter à la tribune.
Et pourtant, l'histoire de la Révolution française est une histoire qui a commencé avec les femmes. Hommes et femmes ensemble, à Versailles devant les grilles, il y a même plus de femmes que d'hommes. Dans les débats, on a raillé d'ailleurs les tricoteuses, celles qui avaient le temps de rester et de commenter l'ensemble des débats, l'ensemble des procès aussi qui étaient faits en comité de salut public. On oublie aussi que dans les premières troupes révolutionnaires, il y avait des femmes qui se sont battues. Cette idée de conscription qui était nouvelle avec la Révolution apportait les femmes autant que les hommes sur la ligne de front jusqu'à ce qu'elles s'en fassent chasser par la Convention qui a considéré que la présence des femmes au front détournait les hommes de la mission pour laquelle ils se rendaient en guerre. Et qui a exigé, qui a interdit que les femmes puissent se battre. Mais elles étaient là dès les premières heures de la lutte et de la lutte armée. Ailleurs en Europe, on a des personnages tout aussi emblématiques. Rosa Luxembourg,
oui.
N'est pas non plus la moindre. Emblématique aussi de quelque chose de très européen. Rosa Luxembourg, au départ, elle est polonaise, elle est juive polonaise, et elle se réfugie en Allemagne. Cette capacité de l'Europe à recueillir des grandes consciences, des grands militants politiques, des grandes deux militantes politiques, des grandes minorités. Ça a aussi été ce creuset intellectuel, ce creuset politique et ce creuset de lutte pour la liberté. Simplement, Rosa Luxembourg, elle finit assassinée avec les spartakistes. Et ces histoires sont assez nombreuses et assez similaires pour qu'on les retienne. Louise Michel, là encore, un grand symbole d'une poussée révolutionnaire de la Commune. Un grand personnage, un personnage étrange d'ailleurs, qui porte toutes les ambiguïtés de son siècle et de sa lutte en elle. Un personnage qui se cachait derrière un pseudonyme masculin pour envoyer des poèmes à Victor Hugo dont elle était éperdument amoureuse. Et en même temps un personnage de vertu, presque de puritanisme. Hein. On l'appelait la Vierge Rouge.
La Vierge Rouge.
Un personnage assez dur. Bon, qui a survécu à la Commune, ce qui est déjà en soi extraordinaire quand on sait la boucherie qui a été la répression de la Commune, mais qui a été déporté, qui est parti en Nouvelle-Calédonie, qui est revenu, qui a fini comme un symbole, mais un symbole un peu fossilisé, puis qui a aussi eu quelques dramatiques erreurs de jugement, puisqu'elle était anti-Dreyfusarde, par exemple, et assez fortement antisémite, pour dire les choses. Mais voilà, ces femmes, elles sont emblématiques de ces poussées pour la liberté auxquelles elles se sont associées pleinement. La liberté des femmes, c'est simplement une partie de la liberté tout court. Et ça, l'Europe le connaît et le sait depuis longtemps. Mais elles sont aussi emblématiques de ces va-et-vient, de ces succès pas du tout linéaires. Moi j'ai coutume de dire un peu par provocation que rien ne vaut une bonne guerre pour la cause des femmes. C'est au moment où les hommes sont au front qu'on s'aperçoit que ça va être vraiment difficile de se passer d'elles. Et par hasard, si dans notre pays le droit de vote a dû attendre 45, il a vraiment fallu qu'on les voit en action et notamment dans la résistance pour que les résistants, et notamment les résistants de Londres qui avaient vu autour d'eux autant de femmes que d'hommes, se disent que là, ça allait devenir difficile de dire non. C'est d'ailleurs la même année que l'ENA a été la première grande école ouverte aux femmes, directement dès sa création, exactement pour la même raison. Pour reconstruire un pays effondré, on ne pouvait plus gâcher des talents. On ne pouvait plus se passer de l'ensemble des talents nouveaux dont les femmes. Donc c'est vrai qu'à chaque grande guerre, on a découvert ou redécouvert l'utilité des femmes, notamment dans le monde du travail. Les progrès qu'elles ont faits, elles l'ont fait à ces moments-là. Mais il y a eu aussi des moments de recul phénoménaux. L'occupation a été un moment de recul de la situation des femmes. L'objectif, c'était la natalité. L'objectif, c'était de les ramener à la maison pour qu'elles fassent des enfants. Parce que la France avait été saignée par la Première Guerre mondiale et puis avait déjà beaucoup plus souffert qu'on ne le dit de la drôle de guerre. Elle avait perdu beaucoup d'hommes, donc les femmes elles étaient ramenées à leur rôle domestique consistant à faire des enfants, d'où cette merveilleuse invention de la fête des mères par le régime de Vichy.
Oui.
Il est utile de se rappeler tout de même pour prendre un peu de distance vis-à-vis de ça.
On voit ça dans sa magnifique exposition en ce moment sur l'occupation.
Exactement.
Remarquable.
Et on s'aperçoit qu'en 1950, on a moins de femmes qui travaillent qu'en 1900. C'est-à-dire que le régime de Vichy a gagné. La femme est revenue à la maison. Quand on parle des libérations des années 70 qui sont incontestables, et c'est après mai 68, là aussi, à nouveau, des femmes participent à mai 68 et à tout ce mouvement de libéralisation de la société et des femmes notamment. Mais on en passe d'abord par un énorme recul. Ces 30 glorieuses qu'on nous vend en permanence comme l'âge d'or, ça dépend pour qui. C'est le moment où les femmes travaillent beaucoup moins qu'en 1900. Il a fallu faire un énorme travail statistique. Parce qu'en 1900, quand les femmes travaillaient, elles travaillaient au champ, elles travaillaient à l'usine, elles travaillaient dans les commerces et elles étaient artisans, souvent comme leur mari. Et donc leur comptabilisation dans l'économie marchande était imparfaite. Mais elles travaillaient énormément, elles étaient extrêmement nombreuses à travailler. C'est seulement au moment des années 50 qu'on construit ce modèle de mère au foyer qui élève ses enfants. Et c'est, il faut attendre les années 70 pour le remettre en cause. Et c'est là où on voit cette sinusoïdale, je n'ai parlé que de la France, on sait qu'en Allemagne, on n'est pas au bout de l'histoire de ce point de vue-là.
En Allemagne, non, absolument. Et alors justement, quand vous évoquez cette dimension de la femme au foyer, je pense que le deuxième texte qu'on va écouter, c'est-à-dire celui de Virginia Woolf, justement, on va voir tout ce que la vie matérielle, tout ce que l'organisation qui est prévue pour la femme empêche la femme de pouvoir avoir cette audace. Et donc, bon, on va l'écouter et puis on va parler de cette dimension qui est essentielle et qui s'explique aussi par l'économie, bien sûr. Et Sally Goodwin qui va nous lire ce texte.
But you may say, we asked you to speak about women and fiction. What has that got to do with a room of one's own? I will try to explain. When you asked me to speak about women and fiction, I sat down on the banks of a river and began to wonder what the words meant. They might mean simply a few remarks about Fanny Burney, a few more about Jane Austen, a tribute to the Brontes, and a sketch of Haworth Parsonage under snow. Some witticisms, if possible, about Miss Mitford, a respectful allusion to George Eliot, a reference to Mrs. Gaskell, and one would have done. But at second sight, the words seemed not so simple. The title Women and Fiction might mean, and you may have meant it to mean, women and what they are like. Or it might mean women and the fiction that they write. Or it might mean women and the fiction that is written about them. Or it might mean that somehow all three are inextricably mixed together and you want me to consider them in that light. But when I began to consider the subject in this last way, which seemed the most interesting, I soon saw that it had one fatal drawback. I should never be able to come to a conclusion. I should never be able to fulfill what is, I understand, the first duty of a lecturer, to hand you, after an hour's discourse, a nugget of pure truth to wrap up between the pages of your notebooks and keep on the mantelpiece forever. All I could do was to offer you an opinion upon one minor point. A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. And that, as you will see, leaves the great problem of the true nature of woman and the true nature of fiction unsolved. I have shirked the duty of coming to a conclusion upon these two questions. Women and fiction remain, so far as I am concerned, unsolved problems.
Merci, Hermione.
Je sais, vous m'avez demandé de parler des femmes et du roman. Quel rapport, allez-vous me dire, existe-t-il entre ce sujet et une chambre à soi? Je vais tenter de vous l'indiquer. Après avoir accepté de vous parler, je suis allée m'asseoir au bord d'une rivière et je me suis interrogée sur le contenu des mots « roman » et « femme », ainsi rapprochés l'un de l'autre. Ce que l'on attendait de moi, était-ce seulement un hommage à des écrivains femmes illustres, Jane Austen, les sœurs Brontë, George Eliot? À y regarder de plus près, cette association femmes et romans me parut moins simple. Peut-être me faudrait-il parler des femmes et de ce qui les caractérise, ou des femmes et des romans qu'elles écrivent, ou des romans qui traitent de la femme, ou encore, pensant que ces trois possibilités sont intimement liées, votre désir est-il que je les envisage dans leur entrelacement? Certes, ce serait là la façon la plus intéressante d'aborder notre sujet. Mais elle présente un triste inconvénient, celui de rendre toute conclusion impossible et de ne pas permettre à mes auditeurs, après une heure d'entretien, d'emporter, ainsi qu'il convient, soigneusement dissimulée dans leur carnet de notes, une pépite de vérité qui reposera toujours sur leur cheminée. Dans ces conditions, je préfère me contenter de vous donner mon avis sur un point de détail. Il est indispensable qu'une femme possède quelque argent et une chambre à soi si elle veut écrire une œuvre de fiction. Voilà qui ne résout ni le grand problème de la nature féminine, ni celui de la vraie nature de la fiction romanesque. J'ai donc failli à mon devoir. Le problème, les femmes et le roman restent, quant à moi, irrésolus.
Une question de détail. Question de détail, avoir les moyens de financer, d'avoir suffisamment d'argent et avoir une chambre pour soi. Alors, est-ce vraiment une question de détail? Voilà. Et je trouve que Virginia Woolf, quand elle termine ce texte en disant « Je n'ai pas répondu à la question, je ne vous ai pas dit quelle était la nature de la femme », elle, derrière ça, elle montre que ce qui n'est pas possible de discuter ces sujets-là tant que la femme n'a pas à sa disposition ce dont elle parle. Et d'ailleurs, plus loin dans le texte, dans cet ouvrage, c'est un ensemble de conférences qui réunit l'ouvrage, elle a une très intéressante idée. Elle parle de la sœur de Shakespeare. Et elle dit, la sœur de Shakespeare, et puis après elle ajoute, c'est de la fiction ce que je vous dis, mais la sœur de Shakespeare n'a jamais rien écrit. Elle n'a jamais rien écrit, pourquoi? Parce que précisément, elle n'avait pas les moyens pour écrire, elle n'avait pas ce dont elle parle là. Et elle ajoute, nous sommes toutes, vous femmes qui êtes présentes ici, des sœurs de Shakespeare, et non seulement vous, mais aussi celles qui sont en train de faire la vaisselle ou de s'occuper des enfants et qui ne sont pas dans cette salle aujourd'hui. Et donc ça me paraît vraiment très intéressant de voir cette façon de penser la condition féminine par rapport à ce qu'est la vie quotidienne des femmes.
Et ça a une résonance particulière sur la création. Alors évidemment, Virginia Woolf, c'est la création littéraire et fictionnelle, mais plus largement la création en Europe. On a ce débat récurrent sur ce qu'on enseigne à nos enfants dans les écoles. Est-ce qu'il y a assez d'auteurs féminins? Est-ce qu'ils sont assez mis en valeur? Est-ce que les artistes femmes sont assez enseignées? Est-ce que leur mémoire est suffisamment honorée en Europe? La réponse est non. Mais au-delà de ça, ce que dit Virginia Woolf, c'est qu'il faut les conditions matérielles de son indépendance pour être en situation de créer, pour être en situation de s'exprimer, pour sortir de sa condition ordinaire. Et la plupart des créatrices européennes sont des femmes qui, d'une manière ou d'une autre, ont pu conquérir leur indépendance. Et ça n'est pas sans poser problème, parce que ça signifie que les femmes qui s'expriment et qu'on considère souvent comme des modèles féminins, dont on pense qu'elles s'expriment au nom des autres femmes, ne sont pas forcément représentatives de la condition féminine. Ce sont, si on remonte dans l'histoire, des grandes femmes écrivaines sont des grandes aristocrates.
Bien vu. Elles ne pouvaient pas.
Parce qu'il n'y a qu'elles.
Bien sûr.
Qui pouvaient acquérir à la fois l'indépendance et la liberté et l'indifférence, ou qu'en dira-t-on. Il faut soit des grandes originales, soit des femmes extrêmement privilégiées, voire un mélange des deux. Alors, ça donne des œuvres extrêmement intéressantes, la question n'est pas là. Mais ça questionne tout de même leur capacité à s'exprimer au nom de l'ensemble des femmes, de celles qui n'ont pas une chambre à soi. Et aujourd'hui, je dirais moins une chambre à soi que, bien sûr, une indépendance financière, voire le luxe suprême, c'est-à-dire le temps. Le temps à consacrer à la création, le temps à consacrer à autre chose que ce qu'on nous rabâche en permanence, c'est-à-dire la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Sous-entendu, n'imaginez quand même pas mettre autre chose. Travaillez, occupez-vous de vos enfants, et puis ça suffit bien comme ça. Cette phrase-là, je l'ai entendue de la bouche d'une grande féministe des années 70, que je rencontrais, c'était avant d'écrire mon livre. Et c'était un moment où la démangeaison en était déjà là. Et je n'arrivais pas à m'organiser pour écrire. J'écrivais par petits morceaux, j'écrivais en douce, honteusement vis-à-vis de mes devoirs de femme. Mes devoirs de femme qui travaille et qui se convainc assez facilement, ou que la société convainc assez facilement, qu'elle doit passer 100% de son temps à son travail et 100% de son temps avec sa famille, et tout ça doit faire 100% quand même. Et je parlais de ça avec une féministe et de la génération qui m'avait précédée en lui disant que j'étais très inquiète de voir des jeunes femmes s'investir moins dans leur travail par crainte de cette course folle. Et que quelque part, même si moi je voulais plaider pour leur indépendance financière et les alerter, je comprenais leur inquiétude parce que ça n'était pas forcément très drôle de n'avoir plus aucune espèce de temps, ne serait-ce que pour le plus petit des hobbies, le plus petit des loisirs, encore moins la plus petite des passions, s'il peut y avoir une petite passion. Et cette grande figure m'a regardée extrêmement furieuse contre moi, en me disant, mais enfin, mais vous voulez vraiment tout. Ça m'a aidée continuellement. L'épanouissement, mais vous le trouverez dans le travail, pourquoi voudriez-vous l'avoir ailleurs? Et j'étais assez interdite par cette réponse forte et convaincue, et je lui ai simplement répondu, mais parce que on n'a jamais reproché aux hommes d'essayer d'en avoir ailleurs. Et là, c'est elle qui ne savait plus quoi me dire. Et j'ai eu le sentiment, même en m'offrant le luxe d'écrire, d'avoir cette tension de me dire, je suis une ultra privilégiée qui arrive à concilier un travail, une famille et un peu de temps pour écrire. Alors, pas une chambre à soi, et Dieu sait si ça résonne en moi. Déjà, un ordinateur à soi. Vous êtes dans une famille. Vive la tablette. Et surtout, un peu de temps qui ne serait pas consacré aux autres. Puisque l'image du rôle de la femme dans la société, c'est la porteuse de l'altruisme. C'est la porteuse de la solidarité. C'est par elle que le lien social fonctionne. Et donc, se consacrer à sa création, c'est briser un des ultimes tabous. C'est dire non, là en ce moment je ne m'occupe pas des autres, ou alors pas de la même façon. Je crée éventuellement pour les autres, pour parler aux autres, mais c'est un acte que je fais moi, et quand même, je peux l'avouer, pour moi. C'est très 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 difficile encore aujourd'hui pour une femme, et ça n'est que des privilégiés qui le font, et du coup ça met en situation un peu particulière, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, parce qu'il y a beaucoup de simplisme aussi. Donc, vous êtes une femme qui écrivait sur les femmes, vous parlez au nom de toutes les femmes, je m'en garderai bien, et j'ai pleinement conscience que toutes celles qui sont les sœurs de Shakespeare, et qui sont innombrables dans l'histoire de la création, parce qu'il y a celles qu'on connaît un peu quand même, la sœur de Mozart, dont on sait que Elle a probablement composé un certain nombre de pièces qui ont été attribuées à son frère ensuite.
Et ça, donc, on n'en parle jamais.
Et ça, on en parle très peu. On commence un peu à en parler, mais... Bon, c'est pas grave, c'est Mozart, c'est comme si c'était une marque, finalement.
C'est ça.
Camille Claudel, on en a parlé, et quelques autres, celles qui ont dû essayer d'exister à l'ombre du grand homme, et qui n'ont pas pu avoir mieux que ça, parce qu'il ne fallait quand même pas exagérer. Elles avaient du talent, d'accord, mais elles n'étaient que des femmes, donc on n'allait pas. Et souvent, c'était l'image paternelle qui n'allait pas encourager la femme dans son acte de création. Donc ce qui est dit est très fort. Et pourtant, c'est en Europe que c'est le moins vrai. Parce que, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Martine, c'est le continent de... la solidarité, le continent d'un certain modèle social qui fait qu'il est tout de même possible de sortir de chez soi, qu'il est tout de même possible d'avoir un projet individuel d'indépendance et que le collectif vous porte. Et c'est infiniment plus un acquis et un trésor qu'on ne l'imagine, parce qu'il suffit de sortir du continent européen pour voir que tout ça n'est que un très lointain avenir pour la plupart des femmes de la planète. Et donc, quand bien même on peut se dire la création des femmes, c'était compliqué quand Virginia Woolf en a parlé, ça reste compliqué. C'est tout de même possible, et c'est tout de même possible en Europe pour des raisons très spécifiques des choix qu'on a fait après-guerre.
Ce que vous disiez tout à l'heure sur le hobby, là je viens à votre propos. À l'audace que vous avez de transformer le concours de l'ENA, parce que je crois que justement, régulièrement, le jury demande aux candidats quels sont leurs hobbies, et j'ai vu quelque part que vous avez supprimé, demandé qu'on ne pose plus cette question, parce que précisément, les jeunes filles ont moins le temps d'avoir des hobbies que les garçons, et donc sont défavorisées par rapport à cette question. Et ça, j'apprécie beaucoup.
C'est une question de discrimination, alors c'est les femmes mères de famille. Enfin, je me suis vue. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je raconterais sur les hobbies dont je rêve de pouvoir les retrouver? Oui, il y en a beaucoup, mais sur ceux sur lesquels je suis crédible, parce que j'aurais du temps pour eux, aucun. Et puis socialement, c'est aussi une forme de discrimination considérable.
Bien sûr.
La possibilité d'avoir des loisirs, les moyens de les avoir et le choix de ces loisirs sont des marqueurs sociaux. Il n'y a absolument aucune raison de recruter des décideurs là-dessus.
Mais je vous en remercie. Je vous remercie. Et alors, quant à la chambre pour soi, ça me rappelle un exemple tout à fait privé. Une amie qui déménageait, et alors on m'explique qu'il va y avoir le bureau pour le mari, et ceci, cela. Je dis alors, et toi, ton bureau? Ah ben non, moi, je pousserai un peu la table de la salle à manger, et ça. Enfin, je me souviens de cet exemple, et c'est un exemple fréquent. Hein. Fréquent. Bien, alors on va
juste peut-être, oui, pour conclure sur une note à la fois tragique mais optimiste, c'est que tout ça est vrai et tout ça est une préoccupation et une particularité, mais en lisant les textes et en préparant ma venue, j'ai eu d'un seul coup un contre-exemple très européen et très fort de quelqu'un qui n'a pas eu une chambre à soi et de quelqu'un dont l'unique ouvrage littéraire a marqué nos consciences pour... des générations, c'est Anne Frank. Il ne faut jamais se décourager. Et il ne faut jamais qu'une femme se dise « les conditions ne sont pas réunies ». Ce que dit Virginia Woolf est vrai, et en même temps, il faut être totalement indifférent à ça.
Mais elle nous provoque quelque part,
bien sûr. Woolf.
Elle nous dit ne restez pas la sœur de Shakespeare. Elle est provocante et j'aime beaucoup cette attitude qui est de dire mais rien n'est définitivement perdu. Non, c'était un très beau texte. Alors on va écouter maintenant le texte de Rita Levi-Montalcini, Éloge de l'imperfection, et on va écouter Valentina, je vais mal le prononcer, prononcez-le à ma place, ça sera mieux.
Zajakovsky.
Voilà.
Un laboratorio privato alla Robinson Crusoe. Nell'Italia settentrionale, la vita nel primo anno di guerra continuò senza sostanziali differenze rispetto al periodo prebellico. In un clima tuttavia pervaso da sempre maggiore pessimismo e sfiducia. In questo stato d'animo, aggravato dall'impossibilità di svolgere qualunque attività, mi trovò Rodolfo Amprino quando, ritornato da poco dagli Stati Uniti, venne a trovarmi nell'autunno 1940. Si informò in modo brusco, dalla piemontese, dei miei progetti. Il mio silenzio provocò la sua reazione brusca e un po' irritata. Non ci si perde di coraggio di fronte alle prime difficoltà. Metta su un piccolo laboratorio e riprenda le ricerche interrotte. Si ricordi che Cajal, in quella città sonnolenta che doveva essere Valencia alla metà del secolo scorso, ha costruito un'opera fondamentale che ha gettato le basi di tutto quanto conosciamo sul sistema nervoso dei vertebrati. Il suggerimento non poteva cadere in un terreno più pieno preparato a riceverlo. In quel momento, Rodolfo mi appariva nella veste di Ulisse, quale l'ha immortalato Dante nel 26esimo canto dell'Inferno, quando incoraggiai i compagni di viaggio a non perdersi d'animo e a proseguire la rotta. Toccava infatti in me una corda che aveva vibrato sin dalla prima infanzia, il desiderio di esplorare luoghi ignoti e di avventure. La giungla che mi si presentava davanti in quel momento era più affascinante di una foresta vergine. Si trattava del sistema nervoso con i suoi miliardi di cellule. Si aggiungeva, al piacere che pregustavo, quello di attuare il progetto nelle condizioni proibitive create attorno a noi dalle leggi razziali. Se Cajal, con il suo passo da gigante e il suo eccezionale intuito, aveva osato addentrarsi in quella giungla, perché non avventurarmi a mia volta nella strada aperta da lui? Gli embrioni di pollo offrivano un modello ideale, anche perché era facile procurarseli e farli sviluppare in un abito casalingo. La mia camera, occupata per un terzo dal letto, fu trasformata in laboratorio. Di fronte alla finestra che affacciava su un balcone lungo, prospiciente il cortile del palazzo, sistemai il tavolo con la cassetta nella quale operavo gli embrioni. Tra il tavolo operatorio e il letto, su altri tavoli, disposi il microtomo e il microscopio Zeiss per lo studio istologico delle sezioni di embrioni fissati e colorati. L'estate del 1941 passò nell'angoscia, provocata dalle notizie dell'avanzata trionfante delle armate di Hitler in Russia, dei loro successi su tutti i fronti. Eravamo inoltre privi di notizie di lei, che temevamo fosse caduto nelle mani dei nazisti, perché si era rifiutato di abbandonare il Belgio occupato dai tedeschi. Con immensa gioia ricevetti da lui una cartolina che mi annunciava che era salvo e di nuovo, dopo varie pericolose avventure, era rientrato a Liegi. Era rientrato, affrontando il rischio mortale di vivere nella città occupata dai nazisti e, non potendo più frequentare l'università senza mettere in pericolo la sua vita e quella degli amici, si incontrava segretamente con loro in un piccolo caffè della periferia. Per un anno, sino all'inizio dell'estate del 1941, soffrì la fame, la solitudine e l'annoio. E infine, attraversando la Germania con mezzi di fortuna, riuscì a tornare a Torino a fine agosto. Accettò con molto piacere di associarsi a me nelle ricerche che avevo intrapreso. Dall'autunno del 1941, sino l'anno dopo, quando sia lui che noi dovevamo abbandonare la città. Da quel giorno, la sua voce imperiosa risuonò nella camera da letto laboratorio, dal mattino alla sera. Il lavoro si interrompeva quando venivano i suoi fedelissimi ex allievi e l'oggetto delle conversazioni si spostava dagli embrioni di pollo a quei pazzi criminali che portavano il paese alla rovina.
Dans l'Italie du Nord, durant la première année de guerre, la vie avait continué presque sans changement, mais dans un climat où le pessimisme et le découragement augmentaient chaque jour. C'est donc dans cet état d'esprit, aggravé par l'impossibilité d'exercer une quelconque activité, que Rodolfo Amprino devait me trouver quand, à son retour des États-Unis, il me rendit visite à l'automne 1940. Il s'enquit de mes projets à sa manière un peu brusque, à la piémontaise. Mon silence provoqua chez lui une réaction brusque et quelque peu irritée. On ne perd pas courage aux premières difficultés. Installez-vous un petit laboratoire et reprenez vos recherches. Rappelez-vous que Cajal, dans cette ville endormie que devait être Valence au milieu du siècle dernier, a bâti une œuvre fondamentale et jeté les bases de notre connaissance du système nerveux des vertébrés. Sa suggestion ne pouvait tomber dans un terrain plus propice. Rodolfo m'apparut à ce moment-là sous les traits de l'Ulysse dantesque au champ 24 de l'Enfer, lorsqu'il exhorte ses compagnons de voyage à ne pas désespérer et à poursuivre la route. Il avait su toucher, en effet, une corde sensible qui vibrait en moi depuis l'enfance. Le désir d'explorer des lieux inconnus et aventureux. La jungle qui se déployait alors devant mes yeux était plus fascinante que la forêt vierge. C'était le système nerveux avec ses milliards de cellules. À ce plaisir que je savourais d'avance venait s'ajouter celui de réaliser mon projet dans les conditions restrictives que créaient autour de nous les lois raciales. Si Cajal, avec son pas de géant et son intuition exceptionnelle, avait osé pénétrer dans cette jungle, pourquoi ne pas m'aventurer à mon tour dans la voie ouverte par lui? Les embryons de poulet se prêtaient très bien à cette recherche. De plus, il était facile de s'en procurer et de les faire se développer à la maison. Ma chambre, dont le tiers était occupé par le lit, fut transformée en laboratoire. Devant la fenêtre qui s'ouvrait sur un long balcon donnant sur la cour, j'installai une table avec la petite caisse où j'opérais les embryons. Entre la table d'opération et le lit, j'avais disposé deux autres tables avec le microtome et le microscope Zeiss pour l'étude histologique des coupes d'embryons fixées et colorées. L'été 1941 se passa dans l'angoisse provoquée par les nouvelles de l'avancée victorieuse des troupes hitlériennes en Russie et de leur succès sur tous les fronts. Nous étions sans nouvelles de Lévy qui avait refusé de quitter la Belgique après l'invasion allemande et nous craignions qu'il ne fût tombé entre les mains des nazis. Ce fut avec une immense joie que je reçus enfin une carte postale dans laquelle il m'annonçait qu'il était sain et sauf et qu'il était retourné à Liège après de nombreuses péripéties. Il était rentré et avait affronté le risque mortel de vivre dans une ville occupée par les nazis. Ne pouvant plus fréquenter l'université sans mettre en danger sa vie et celle de ses amis, il les rencontrait en secret dans un petit café de banlieue. Pendant un an, jusqu'à l'été 1941, il avait souffert de la faim, de la solitude, de l'ennui. Puis il avait réussi à rentrer à Turin à la fin du mois d'août, après avoir traversé l'Allemagne par des moyens de fortune. Il accepta avec enthousiasme de s'associer à mes travaux, depuis l'automne 1941 jusqu'à l'année suivante, lorsque nous fûmes obligés de quitter la ville. Pendant toute cette période, ma chambre devait résonner du matin au soir de sa voix impérieuse. Le travail ne s'interrompait que lorsque ses anciens et fidèles élèves venaient nous voir. L'objet de nos conversations se déplaçait alors des embryons de poulet à ces fous criminels qui conduisaient notre pays à sa ruine.
Alors, question, qu'est-ce qui a permis à cette Rita Levi-Montalcini, qui a été lauréate du prix Nobel de médecine en 86, de devenir un Ulysse dantesque, c'est-à-dire d'explorer des lieux inconnus et aventureux? Qu'est-ce qui permet à cette femme et à d'autres de devenir ces Ulysses dantesques?
À l'évidence de ce qu'elle en raconte, un mentor.
Voilà.
Quelqu'un qui lui dit aie confiance, crois en toi, vas-y. Voilà. Et pourtant, elle le décrit merveilleusement bien, aucune condition matérielle n'est réunie pour que ce soit possible. Elle n'est pas dans l'ambition, elle n'est pas dans une projection d'elle-même. Elle n'a pas sa chambre à elle, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle n'est pas dans une projection d'elle-même classique. Elle est dans un parcours atypique, hors norme, mais on lui apprend à avoir confiance et elle fonctionne sur un autre moteur qui est celui de la curiosité et de la passion. Et derrière les trajectoires féminines, on trouve souvent ce cocktail entre un mentor. Et je dis un mentor parce que on s'enferme un peu depuis quelques années dans l'idée que pour aider les femmes, il n'y a rien de mieux que d'autres femmes. Que le marrainage, c'est la chose qu'il faut faire à tout prix et que finalement, les femmes se comprennent et ne peuvent parler qu'entre elles. Je trouve ça terriblement réducteur, surtout dans beaucoup de milieux où il y a très peu de femmes qui sont en situation de donner des conseils. Et puis, ce serait une vision du monde où finalement on ne pourrait pas se parler les uns les autres. Et ça ne serait pas du tout une vision européenne, parce qu'on voit, on est dans les années 40, et ça se fait très naturellement, ce Rodolfo qui lui dit, mais vas-y, qu'est-ce que tu attends? En quelque sorte, il la bouscule un peu, et puis ce Lévi qui revient et qui se met à travailler avec elle, il y a quand même cette facilité des rapports hommes-femmes, qui pour moi, et j'ai eu la chance de vivre et de travailler sur les cinq continents, est tout de même un héritage très spécifique à l'Europe. Je ne dis pas à l'Occident, je dis à l'Europe. Parce que je trouve qu'aux États-Unis, absolument, c'est beaucoup moins simple.
Absolument.
Ça s'appuie sur une culture qui est passée par la philosophie et la notion de citoyenneté, même s'il a fallu attendre très tard pour s'apercevoir que la citoyenneté concernait aussi les femmes, mais par une notion d'individu. Et puis je dirais, sur un plan plus culturel, par tout ce qui a fait qu'on a joué autour de concepts comme l'amour courtois, comme une manière de coder les rapports entre les hommes et les femmes.
Denis Drougeron.
Où les femmes ont toute leur place, ont un rôle, et assez vite, même si c'est dans la littérature, même si c'est pour une minorité, elles sont d'une certaine manière dans le jeu des sentiments à égalité. Ailleurs dans le monde, c'est beaucoup moins simple. Ailleurs dans le monde, on a aussi souvent moins pris ses distances vis-à-vis d'une lecture impérieuse de la religion, je ne dis pas de la religion en tant que telle, mais une lecture impérieuse de la religion. En Europe, tout ça est passé à travers beaucoup de crises, beaucoup de sang, beaucoup de larmes, beaucoup de complications, hein, beaucoup de guerres de religion, mais la religion est beaucoup plus dans l'espace de l'intime et beaucoup moins dans l'espace social. Au total, on voit la facilité avec laquelle cette femme raconte qu'un homme lui a donné des conseils. Elle s'est projetée dans la trajectoire d'un autre homme. Elle parle de Qajar en disant « Bah oui, c'est vrai, ça pourrait être moi quand même. » Donc elle trouve un modèle masculin qui l'inspire. À aucun moment, elle va chercher... Là aussi, on nous bassine, pardon, de ce terme familier, mais les rôles modèles féminins. Et alors, à cette période de l'année, on passe son temps à demander quelles sont les femmes auteurs qui vous inspirent, quelles sont les femmes politiques qui vous inspirent. Et je suis navrante à interviewer, parce que tous les gens qui m'ont donné envie de faire quelque chose dans la vie sont des hommes. Je suis désolée, mais il faut presque s'en excuser aujourd'hui, parce que on me répond, non, mais ça ne correspond pas à la question. Ça ne va pas du tout avec l'article, je suis désolée. Moi, je me suis bâtie comme ça. Et je trouve ça très... Ça rend très optimiste, ce texte. Cette femme qui... on n'est pas du tout dans un modèle... Alors, on n'est pas dans un modèle classique masculin d'ambition et de réussite professionnelle. On est sur de la passion, on est sur de la curiosité, on est sur du bric-à-brac. Et ça la porte jusqu'au prix Nobel de médecine. Donc c'est quand même très très éclairant.
Et je pense que de toute façon ça montre la solidarité. Arrêtons de parler de la relation qu'on peut simplement avoir avec des femmes. Mais ça montre aussi que les êtres de passion, et elle est entourée d'êtres de passion, sont bien au-delà de tout ce qu'on peut. Ils donnent un message. Et quand vous dites les gens qui autour de moi ont aidé, ce sont des hommes, il s'est trouvé que c'était des hommes. Ça aurait pu être des femmes, mais ce sont des hommes. Je partage assez la chose, d'ailleurs. Mais donc, dans ce texte, on voit une femme qui est capable de devenir celle qui va explorer parce que il y a eu cette impulsion qui est venue de l'extérieur. Je crois qu'on n'est rien sans les autres. Les autres, ça peut être des hommes autant que des femmes. Et l'essentiel, c'est qu'il y ait des autres qui vous tirent, hein, qui viennent vous chercher à certains moments. Et alors, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, est-ce toujours aussi possible que récemment?
Mais je ne suis pas si sûre, parce que on voit cette femme qui effectivement s'identifie à un grand chercheur, un homme, qui se dit « je suis assez passionnée pour me dire pourquoi pas moi ». Aujourd'hui, on voit les statistiques, hein, on voit que la mixité des métiers a jamais été aussi faible que maintenant, alors que rien ne le justifie. On voit des jeunes filles réussir brillamment leurs études secondaires. Il y a dans les mentions très bien au bac S, 40% de jeunes filles. À Polytechnique, 15% de filles. Alors tout le monde n'a pas forcément à l'esprit de passer par l'école polytechnique, mais cet effondrement-là, ce gâchis-là, il vient d'une projection. Ces jeunes filles ne sont pas cette italienne, ne se disent pas « pourquoi pas moi ?». Et il y a pléthore d'initiatives pour les encourager. Les femmes scientifiques passent leur temps à aller dans les collèges, dans les lycées, à faire des conférences pour dire « vous pouvez le faire, c'est possible ». Et pourtant, on voit aujourd'hui une répartition aux hommes la technique, aux femmes l'humain, aux femmes le care, parce que ce serait naturellement féminin. On est dans une espèce de délire essentialiste qui nous emmène nulle part, mais on répète à l'envi, et je ne suis pas absolument certaine aujourd'hui qu'on soit dans une progression linéaire. Je pense en tout cas qu'il faut qu'on fasse très très attention et qu'on regarde de près ce qui se passe à l'école, ce qui se passe dans les familles. Moi, le constat que j'ai fait, notamment par rapport à l'école que je dirige, hein, pourquoi il n'y avait pas davantage de filles qui se présentaient, parce que c'est très bien de les aider à réussir le concours, mais encore faut-il qu'elles viennent. Et donc, on a interrogé beaucoup de monde, et notamment celles qui avaient franchi le pas, celles qui s'étaient présentées, qui avaient réussi, et pour lesquelles ça s'était en général très bien passé par la suite. Et la réponse, c'était « j'ai été encouragée par mon père ». Ah, c'est le mentor ultime, mais enfin, tout le monde n'est pas doté d'un père qui a envie de faire de vous une femme au parcours hors norme. D'abord, c'est très socialement connoté. Oui. Un père qui pense aux études de sa fille, on ne va pas le trouver dans tous les milieux sociaux.
Non.
Et ça, c'est une autre préoccupation. C'est-à-dire, si je dois faire de la diversité de genre au détriment de la diversité sociale, j'aurais un vrai problème. Et puis ça veut dire qu'il y a un acteur clé qui est totalement neutre dans ce parcours, et c'est l'école. C'est-à-dire que l'école produit des très bonnes élèves dont elle ne fait rien, pour lesquelles elle n'a pas de projet. Et pour des tas de raisons, il ne s'agit pas de jeter la pierre aux enseignants et de dire c'est de leur faute, ils sont nuls, comme on a pris aussi l'habitude de faire depuis quelque temps. Tout ce qui va mal, c'est l'école. Mais simplement, les enseignants sont eux obnubilés par ceux qui vont mal, ceux qui risquent de décrocher. Et décrocher, c'est pas n'importe quoi, c'est pas simplement ne pas avoir son bac, c'est être dans une situation économique, sociale, maintenant on le sait aussi, idéologique, de vulnérabilité. 82% des décrocheurs sont des garçons, 86% des détenus sont des hommes. Et quand on parle aujourd'hui des rives radicales et des rives sectaires, on sait quel est le parcours qui amène de l'un à l'autre. Donc on ne peut pas blâmer les enseignants de passer plus de temps pour ceux qui vont mal ou pour celles qui vont bien. Mais celles qui vont bien, finalement, ça leur sert surtout à ne pas déranger, à ne pas poser de problème. Ça ne leur crée pas un projet. Et ça, c'est un vrai risque de recul.
Vous me rappelez, hein, par vos propos, ce que m'avait dit une fois Pierre Léna, quand ils ont créé La Main à la Pâte et puis la suite. Il m'avait dit, on a une déperdition considérable de jeunes filles pour les vocations scientifiques, parce que, comme vous dites, elles réussissent très bien scolairement, mais il y a le milieu environnant qui fait qu'elles ne veulent pas risquer l'échec. Elles ne veulent pas, et c'est ça la femme audacieuse, c'est qu'elles ne sont pas soutenues par un milieu qui leur dit, comme le père de vos étudiantes de l'ENA, vas-y, tu vas y arriver. Et s'il n'y a pas ça, vu ce qu'est la mentalité environnante, eh bien, on ne prend pas le risque. On ne prend pas le risque. Alors, c'est le risque, ça va nous permettre d'écouter ce magnifique texte de Simone Veil sur le risque. On vous écoute.
Le risque est un besoin essentiel de l'âme. L'absence de risque suscite une espèce d'ennui qui paralyse autrement que la peur, mais presque autant. D'ailleurs, il y a des situations qui, impliquant une angoisse diffuse sans risque précis, communiquent les deux maladies à la fois. Le risque est un danger qui provoque une réaction réfléchie, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas les ressources de l'âme au point de l'écraser sous la peur. Dans certains cas, il enferme une part de jeu. Dans d'autres cas, quand une obligation précise pousse l'homme à y faire face, il constitue le plus haut stimulant possible. La protection des hommes contre la peur et la terreur n'implique pas la suppression du risque. Elle implique au contraire la présence permanente d'une certaine quantité de risque dans tous les aspects de la vie sociale. Car l'absence de risque affaiblit le courage au point de laisser l'âme, le cas échéant, sans la moindre protection intérieure contre la peur. Il faut seulement que le risque se présente dans des conditions telles qu'il ne se transforme pas en sentiment de fatalité.
La dimension du risque. Alors, par rapport au risque, vraiment, ça, on rejoint un peu ce qu'on était en train de se dire, l'ennui. L'ennui, à une certaine époque, les femmes n'avaient vraiment pas le temps de s'ennuyer. Alors, aujourd'hui, il y a peut-être la dimension de l'ennui qui vient, quelque part, pour certaines et pour certains. Et puis, en lisant ce texte, moi, j'ai pensé au principe de précaution. Principe de précaution, qui est l'inverse de la prudence aristotélicienne, c'est-à-dire ce refus de prendre quelque risque que ce soit. Et ça me paraît absolument antinomique de l'anthropologie européenne, de la conception, enfin, du fait que l'Europe est devenue une grande civilisation, parce que précisément, il n'y avait pas de principe de précaution. On prenait tous les risques. Et donc, la femme... Enfin, c'est Simone Veil qui l'écrit, ça concerne toute personne humaine. Mais il y a cette dimension de stimulant. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, permet à la femme d'avoir l'audace parce qu'elle a la stimulation du risque? Pourquoi va-t-elle jusqu'au risque?
Alors, on est dans une civilisation qui, effectivement, a banni le risque. Il y a un an... J'organisais comme chaque année un colloque commun entre les élèves de l'école de guerre, les étudiants d'HEC et les élèves de l'ENA. Et c'est un moyen passionnant de faire dialoguer des mondes qui ne se connaissent pas bien et qui ont énormément d'idées reçues les uns vis-à-vis des autres. Et on les fait travailler pendant un an à choisir un sujet, choisir des intervenants, écrire des papiers et produire quelque chose. Et ça faisait des années que... le colloque tournait autour de la notion de leadership, de management, etc. Puis à un moment où on tourne en rond, on répète un peu les mêmes anciennes. Et j'avais dit simplement à mes élèves, écoutez, je vous en supplie, le management, j'en peux plus. Trouvez-moi quelque chose. On va tourner autour du risque. Parce que finalement, pour des futurs officiers supérieurs, pour des futurs chefs d'entreprise et pour des futurs décideurs publics, la notion de risque est quelque chose à discuter en commun, ça peut nous apporter. Et on commence à approcher des intervenants et puis des institutions qui travaillent avec nous sur ce genre de choses en leur disant qu'on allait faire un colloque sur le risque. immédiatement, on entend, ah oui, la prévention du risque, la gestion du risque. Alors on disait, mais comment on peut faire pour que les gens comprennent ce qu'on a envie de dire et ce sur quoi on a envie de travailler. Et donc le colloque s'est appelé « Osons le risque », pour que vraiment personne n'y aille sans avoir bien compris ce qu'on attendait. Mais c'était en soi extrêmement éclairant de voir que le risque, c'était ce qu'il fallait absolument éviter à tout prix. Et alors c'est encore pire pour les femmes que pour les hommes, justement parce que notre mode d'éducation, notre système éducatif, nous crée une aversion au risque considérable. La manière dont on apprend quand on est un enfant, et en particulier quand on est une petite fille, beaucoup d'études ont montré que les enseignants, qui sont essentiellement des enseignantes en primaire, donc la question des reproductions de stéréotypes n'est pas une question d'un complot des hommes contre les femmes, c'est un complot des habitudes contre le progrès. Les enseignantes vont demander à une petite fille, le matin, de réciter la leçon de la veille. Donc c'est une compétence importante, utile, mais qui nécessite d'avoir écouté sagement, de ne pas avoir mis en question d'ailleurs ce qu'on a entendu, et de l'avoir relu le soir tranquillement chez soi, et puis le lendemain, on appuie sur un bouton, est-ce que tu sais ta leçon? Oui, bon, c'est bon. Et la petite fille devient une très bonne élève comme ça, en ne prenant aucun risque. Et moins plus elle se prépare, mieux ça se passe. Et donc sa mention très bien, elle l'obtient en ayant surtout évité tous les risques. Le petit garçon, dont on sait qu'il est rudement, éventuellement mauvais élève, que ses capacités d'apprentissage ne sont pas exactement au même âge, et pourtant on a des classes mixtes, parce que la puberté passe par là et que les hormones empêchent d'écouter le professeur, manifestement. En tout cas, ça ne se passe pas exactement en même temps. Comme on le sait, le petit garçon, on va essayer de le stimuler et de lui donner envie de rester dans la classe quand même. Et donc, on va lui demander ce qu'il est capable de deviner sur le sujet dont on va parler. Alors, on va lui dire, aujourd'hui, on parle des volcans, qu'est-ce que tu sais sur les volcans? Tu as bien dû aller en Auvergne, tu es peut-être allé à Vulcania, tu as peut-être vu l'émission de télévision, tes parents t'ont peut-être parlé d'eux, etc. Et alors, il va aller faire appel à ses compétences extrascolaires. Il va s'aventurer sur des terrains qui ne sont pas balisés. Et il va prendre le risque de se tromper, puisque c'est une leçon qu'on n'a pas encore vue. Mais il sera gratifié pour ça. On ne va quand même pas gronder un petit garçon qui ose parler, parce qu'il ne sait pas exactement ou qu'il dit quelque chose d'inexact. C'est la leçon qu'on n'a pas encore vue. Donc c'est quand même formidable, au moins il a essayé. Et on va le féliciter parce qu'au moins il a essayé. Et donc on prépare les futurs hommes à prendre des risques, et les futures femmes à s'en prémunir. Et ça, si on le fait sur la durée, on ne crée pas la même attitude vis-à-vis de l'existence. Dans une société qui est effectivement, par ailleurs, et c'est heureux, et grâce à l'Europe, a échappé à la guerre, en tout cas dans une partie de l'Europe, dans une partie de l'Europe. Oui. Puis on a aussi exporté nos guerres, parce que pas de guerre depuis 1945, attention à qui on le dit. Ne parlez pas un bosniaque, ne parlez pas un algérien, ne parlez pas.
Sarajevo, il fallait pas dire ça. Hein.
Voilà, c'est pas de guerre sur notre sol depuis 1945 dans une partie de l'Europe. Je suis aussi convaincue de la valeur de l'Europe que vous, mais n'allons pas un peu vite en besogne. Mais enfin, en tout cas, un climat de sécurité qui fait que aujourd'hui on parle de guerre contre le terrorisme, et ça me hérisse, parce que moi j'ai vécu aux États-Unis après le 11 septembre, où on disait la même stupidité, pardon de dire ça comme ça, mais le terrorisme, c'est la forme la plus choquante, la plus violente et la plus absurde d'un fait divers. Un acte terroriste, c'est un fait divers. Il est fait pour terroriser. Mais c'est pas une guerre. C'est quelque chose d'aussi choquant que quand des trafiquants de drogue se tirent dessus à coups de Kalachnikov dans une cité du nord de Marseille. C'est un fait divers. Mais aujourd'hui, on appelle ça une guerre. Bon, d'abord parce qu'on est pris par surprise, bien sûr. Et puis aussi, quelque part, on a envie de se dire qu'on fait partie du grand mouvement du monde. Et que moi, je me souviens quand j'étais aux États-Unis pendant la guerre d'Irak, et j'étais porte-parole de l'ambassade, donc tout le monde connaissait à la fois mes convictions et puis aussi ma voix et mon visage, parce que je passais beaucoup sur les médias américains, donc faire mes courses au supermarché du coin, c'était commenter la guerre d'Irak partout dans les rayons, parce que les clients, les vendeurs, j'ai le souvenir de 5 ans d'un vendeur de légumes polonais qui voulait absolument qu'on aille en guerre en Irak, c'était très 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 long. Donc il fallait reparler de mon métier tout le temps. Et les gens me demandaient, mais quel effet ça vous fait dans un pays en guerre? Et je voyais les caddies pleins, et je voyais les énormes 4x4 sur les parkings, et je leur disais, non mais attendez, arrêtez. Arrêtez, vous n'êtes pas un pays en guerre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, pas comme notre Europe sait ce que la guerre peut vouloir dire. Et le seul moyen parfois de clore la conversation, c'était de faire le compte de combien de membres de ma famille étaient morts entre les deux guerres mondiales. Et les gens ne me croyaient pas. Ça ne leur apparaissait même pas humainement possible qu'on puisse perdre le temps de membres de sa famille dans le même siècle. Donc oui, on a perdu la notion de risque. Or, on apprend qu'en s'exposant, on apprend qu'en allant en dehors de sa zone de confort, qu'en risquant l'échec, et même qu'en essuyant l'échec. Parce que le seul moyen de grandir, c'est exactement comme d'apprendre à faire du vélo. Vous pouvez lire 1000 livres sur le vélo, vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous voulez sur comment on fait du vélo. Il faut que vous empoignez le guidon, il faut que vous soyez tombé une dizaine de fois pour que ça marche. Et en général, vos parents qui vous mettent sur la selle savent très bien ce qui vous attend, c'est-à-dire les genoux couronnés. Vous allez tomber, vous allez parfois pleurer si vous êtes mal tombé, et on va vous dire, c'est pas grave, c'est formidable, t'as quand même fait 50 cm. Remonte, tu vas voir, tu fais 2 mètres, et regarde, ce soir, tu sauras faire du vélo. Et en plus, c'est vrai. Alors pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ça au reste? Notre système scolaire qui est un peu dépassé par tout ce qu'on lui demande, et on lui demande beaucoup trop, bah, il gère effectivement, c'est de la gestion du risque. On travaille avec les plus compliqués, avec les plus difficiles, et le reste on essaye de le mettre à distance. Et Simone Veil a raison de nous alerter là-dessus, c'est par le risque qu'on vit tout simplement. Et ce qui me frappe chez ces femmes, chez nous, parce que je m'inclus dans le lot et je me vois souvent hésiter quand on me propose quelque chose, en voyant, en listant les risques. Et si j'étais pas parfaite? Et si j'étais pas bonne? Et si ça ne passait pas bien? Et puis, je fais tellement de coaching auprès de jeunes femmes qu'après, je me dis, justement, c'est des questions que je leur dis de ne pas se poser. Donc,
vous êtes venue,
par exemple. Ça c'était un plaisir, et on parle jamais assez du plaisir à surmonter son risque. L'adrénaline, c'est quand même quelque chose qui fait plaisir aussi, et ça c'est sorti un peu de nos discours, ça fait de la peine. Et pourtant les femmes sont les plus grosses preneuses de risques de l'humanité depuis des millénaires et partout dans le monde, parce que nous faisons des enfants. Et comment arrivons-nous à prendre autant de risques dans notre sphère privée et avoir aussi peur du risque dès que nous sortons de cette sphère-là? C'est un mystère sur lequel je n'ai pas de réponse.
Si ce n'est, moi c'est une remarque que j'ai faite à mon mari il n'y a pas très longtemps. J'ai 3 filles. Et je lui ai dit, ça aurait été il y a 100 ans, chaque fois que j'aurais marié une fille, je me serais dit, bon, il y en a une sur deux à peu près qui meurt en couche au cours de sa vie de femme, je suis en train de mettre ma fille sur l'échafaud. Alors qu'aujourd'hui, j'ai marié 2 filles sur 3 et je ne pense pas que je les ai mises sur les chapeaux. Voilà, donc ça quand même, il y a eu un progrès par rapport à ce risque. Alors, la dimension de la paralysie, quand elle dit la peur produit la paralysie, le risque, au contraire, est un stimulant de la réflexion, à l'inverse de la paralysie. Je trouve ça très très fort. Parce qu'elle inverse les choses. Quand vous parlez du terrorisme, le rôle du terrorisme, c'est justement de paralyser. C'est de paralyser. C'est donc de croire que les gens vont réagir par la peur et non pas par le risque.
Exactement.
Or, comme vous dites, les femmes ont toujours affronté le risque, c'est vrai. Alors, qu'ont-elles à faire aujourd'hui dans une période où on essaye de nous faire peur par le terrorisme?
Je crois que les femmes et les hommes, les femmes avec les hommes, on a d'abord à reconstruire du lien, à lutter contre la peur. Et la première peur, c'est la peur de l'autre. C'est la simplification, c'est les schémas dans lesquels on s'enferme et qui sont effectivement complètement paralysants. Et les femmes, de ce point de vue, j'aime pas dire que les femmes ont des qualités que les hommes n'ont pas, parce que ça veut dire qu'elles ont aussi des défauts, et ça nous ramène à nos vieux schémas qui n'ont pas beaucoup de sens. Mais elles sont souvent mieux acceptées quand elles sont des agents de dialogue. Ça, je l'ai vécu dans ma vie de diplomate. J'ai beaucoup travaillé sur des questions de conflit, des questions d'imposition de la paix ou de maintien de la paix. Et il n'y a rien de plus facile pour aller voir un chef de guerre que d'être une femme. Parce que on ne correspond pas au cliché qu'il peut avoir. On ne lui fait pas peur. Et il a confiance. Et c'est fou ce qu'on peut
obtenir. L'Europe choisit toujours des femmes pour ça. Hein.
Et c'est vrai que l'Europe choisit toujours des femmes. Et c'est vrai que l'ONU a souvent choisi des femmes. Et c'est pas pour faire du politiquement correct. C'est parce que je peux vous le dire pour l'avoir vécu. Arriver devant une troupe d'hommes en armes, se faire braquer en étant d'ailleurs à l'époque enceinte et même très enceinte. Bon, c'est une prise de risque. Il se trouve que j'ai la chance de ne pas avoir peur, mais c'est une prise de risque qui était calculée parce que j'étais convaincue que ces hommes allaient se voir en train de braquer une femme enceinte et se dire dans ce que je fais, ça n'est vraiment pas possible. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils ont baissé les armes et j'ai pu aller voir des prisonniers que j'avais normalement pas le droit de voir.
Bravo.
Mais simplement parce que j'étais une femme, pas parce que j'avais des qualités particulières, et parce que sans prise de risque, il ne se serait rien passé. Je sais qu'à l'époque, la seule critique que j'ai essuyée, ça a été de membres de la DGSE, d'hommes, qui avaient toujours dit que cette mission-là, elle ne pouvait pas être faite parce qu'elle était trop risquée. Et que, évidemment, cette mission accomplie par quelqu'un qui n'était pas de la DGSE, une femme et en plus enceinte, je fichais complètement par terre tout leur raisonnement et la façon dont ils ont dû faire le rapport à Paris devait être un peu compliqué. Mais oui, la prise de risque, ça fait avancer. Le risque calculé, pas le risque tout, pas le casse-cou. Moi, j'ai aussi été DRH d'un ministère, le ministère des Affaires étrangères, où j'ai envoyé des gens à Kaboul, à Bagdad, à Tripoli, à Damas. Et le premier tri, on le faisait avec le psychologue. Ceux qui disaient « j'ai peur de rien et je vais vous régler ça, vous allez voir, j'arrive », n'ont jamais compris pourquoi c'était ceux qui ne partaient jamais. Parce qu'ils allaient se mettre en danger, ils allaient nous mettre en danger. Mais oui, le moteur, c'est d'accepter le risque et c'est d'en découvrir, et c'est formidable que Simone Veil l'a écrit comme ça, l'effet moteur, le plaisir. Le plaisir, l'adrénaline, c'est une drogue.
Et ce qu'on retrouve aussi dans la prudence aristotélicienne, hein, il le dit très clairement. Bon, mais écoutez, il nous reste vraiment à vous remercier, d'une part, de l'exemple que vous nous donnez, et puis de toute la moisson de réflexions qu'on va pouvoir exploiter maintenant pour aller parler aux femmes.
Merci à vous.
Merci.